Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le ministère public a reconduit hier son réquisitoire du premier degré concernant le procès en appel de la tentative du coup d'État manqué du 19 mai 2024 et qui se tient par la cour militaire de Kinshasa-Gombe à la prison militaire de Ndolo. L'auditeur général des FARDC estime que la peine capitale contre 37 prévenus à la barre devrait leur être appliquée au vu des nouvelles preuves contenues dans ce dossier. Mise en place de l'opération dénommée Caterpillar 2 pour riposter à toute violation du cessez-le-feu par le 123 soutenu par le Rwanda. L'annonce a été faite hier par le porte-parole de l'armée au Nord Kivu depuis la cité de Ngungu, reprise mardi par les FARDC et leurs alliés, les Wazalendo. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Maniema et l'invité de ce journal, Assani Somwe Bin Choma, va parler des efforts fournis par le gouvernement provincial pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans le Maniema. Bonsoir à tous. Au procès en appel de la tentative du coup d'État manqué du 19 mai 2024, le ministère public a reconduit hier vendredi son réquisitoire du premier degré. Devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe à la prison militaire de Ndolo, l'auditeur général des FARDC a fait savoir au juge que compte tenu de nouvelles preuves qui gisent au dossier, la peine capitale contre 37 prévenus à la barre devrait leur être appliquée. Mais jusqu'à ce second degré de juridiction, les prévenus clament toujours leur innocence. La Cour va recevoir leur plaidoirie le lundi 13 janvier. Jeff Ngoy pour les détails.
Les prévenus motivent leur innocence, faisant croire que c'est par contrainte qu'ils se sont retrouvés dans le mouvement de Christian Malanga New Zaïre, sans en maîtriser ni les tenants ni les aboutissants. Mais selon le colonel Parfait Mboutamontou, ministère public, ces prévenus pouvaient bien résister à Malanga. Ils ont adhéré à son mouvement en toute liberté pour mettre en mal les institutions de la RDC. Il suffit de considérer l'euphorie généralisée observée durant l'opération dans le chef de tous les assaillants pour s'en rendre compte, allègue le colonel. Parlant de l'expert militaire belgo-congolais Jean-Jacques Ondo, il déclare qu'il n'en est pas moins le pion majeur de ce coup d'État manqué. Ondo était bel et bien en contact avec Malanga à travers Maloucha, dit-il. Ce dernier est un des renseignants ayant déchargé l'expert militaire. C'est depuis le 7 juin de l'année dernière que ce procès a été ouvert. Le 13 septembre, le premier juge a condamné à la peine capitale 37 présumés auteurs de cette forfaiture et en a acquitté 14.
Plus de lumière sur les circonstances de la mort du journaliste Patrick Adonis Numbi. C'est ce qu'exigent ses collègues journalistes de Lubumbashi. Ils l'ont fait savoir hier vendredi au gouverneur du Haut-Katanga. Patrick Adonis Numbi a été tué à coups de machette mardi dernier par des inconnus. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, a indiqué que la famille de la victime et la police travaillent déjà sous sa supervision pour que les circonstances de la mort du journaliste soient élucidées. Depuis Lubumbashi, Jean Gandou.
Les journalistes de Lubumbashi en colère sont une fois de plus descendus dans la rue ce vendredi. Leur point de chute était le gouvernorat de province où les attendait le gouverneur Jacques Kiaboula.
Je suis touché parce que j'ai eu apprécié le travail abattu par notre ami Adonis. Aujourd'hui, le voir mourir dans les circonstances que nous connaissons tous, ça me fait mal au cœur.
À cette occasion, la deuxième vice-présidente de l'UNPC a, au nom de tous ses collègues, lu et remis au gouverneur de province le mémo élaboré à cette fin. Pour Marianne Mujingiave, trop c'est trop, il faut que justice soit faite.
Nous sommes venus vous dire que nous ne respirons plus. Nous sommes venus exiger que justice soit faite à Patrick Adonis Numbi et aux nombreuses victimes de l'insécurité qui souffrent en silence. Que le procureur fasse tourner la justice et la recherche des infos. Il est intolérable que des crimes se succèdent sans des enquêtes sérieuses ne soient menées. Et si par formalité, des enquêtes sont annoncées, on n'en connaît souvent pas les issues. Nous sommes fatigués des mensonges. Sur qui devons-nous finalement nous appuyer?
Pour le gouverneur de province, les enquêtes sont en cours et il faudra que la vérité soit connue et les responsabilités établies. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Toujours dans le Haut-Katanga, quatre corps sans vie, dont certains en décomposition, ont été découverts ce samedi à Likasi, dans une brousse située à Katuzembe, sur l'axe Likasi-Kolwezi. Les premières informations renseignent que les victimes sont toutes des taximens moto portés disparus depuis quelques jours. Ils avaient des bras liés. Alertés, les membres de leur famille sont arrivés sur place pour identifier les corps. En attendant leur enterrement, une source proche de la police qui confirme ces informations précise que les corps sont déposés à la morgue de l'hôpital Dako. Notons que les circonstances de ces crimes et leurs auteurs ne sont pas encore connues. Au Nord Kivu, les FARDC mettent en place l'opération Caterpillar 2 avec pour mission de riposter à toute violation du cessez-le-feu par le M23 soutenu par le Rwanda. Déclaration hier vendredi du porte-parole de l'armée au Nord Kivu à partir de la cité de Ngungu, reprise depuis mardi par les FARDC et leurs alliés, les Wazalendo. C'est dans le groupement Ufamandu, à environ 15 km de Rubaya, au nord de Masisi. Dans sa déclaration, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko rassure la population que l'armée met tout en œuvre pour que la situation redevienne calme et repousser l'ennemi afin que les habitants retrouvent la quiétude. On écoute le colonel Guillaume Djike.
Nous sommes à Ngungu, le commandant Tafok Sud Kivu et le commandant Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi, sécurisé notre population qui rentre déjà en Ngungu, comme vous venez de le constater. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, c'est mettre à l'abri son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme.
Par ailleurs, une certaine accalmie est signalée ce samedi matin sur les lignes de combat à Ngungu, tout comme à Masisi Centre. D'après les sources indépendantes dans la région, les FARDC et les Wazalendo contrôlent, nous l'avons dit, toujours la cité de Ngungu, alors que l'ennemi se trouve à Rubangabanga, Mufunzi et Nyabihanga, à environ 2 à 3 kilomètres de la cité. Ces éléments du M23 soutenus par le Rwanda occupent encore Masisi Centre, tandis que l'armée et les Wazalendo sont à Kironge et Kaniro, à une dizaine de kilomètres de là, précise nos sources. Restons au Nord Kivu. Deux armes à feu, deux chargeurs garnis, 300 cartouches détenues et autres effets militaires ont été récupérés des mains des présumés bandits armés par les services de sécurité. En effet, 18 présumés criminels, y compris des femmes, accusées de semer l'insécurité dans les camps des déplacés, ont été appréhendés et présentés au public ce samedi au camp de Lushagala, quartier Mugunga, dans la ville de Goma. Ces criminels se servent des camps des déplacés pour se cacher après leurs opérations criminelles, a indiqué le maire de la ville. Pour sa part, le colonel Mokili Mungu Akonkwa, responsable de la sécurité des camps, a présenté 4 groupes, dont un militaire et un policier déserteur. Il y a aussi des femmes qui se font passer comme des épouses des militaires et qui opèrent de mèche avec des bandits. Un groupe de faux Wazalendo, intercepté par les services de sécurité, a été aussi présenté au public. Dans le territoire de Beni, des coups de feu ont été entendus vendredi soir à Kabarole, un village lacustre situé à 7 km au nord-est de la cité frontalière de Kasindi Lubiera, une situation qui a créé la panique dans cette zone frontalière à l'Ouganda, la population croyant à une attaque des rebelles des ADF. Ce samedi matin, la psychose régnait toujours dans la zone, mais l'armée dit contrôler la situation. Marc Marofimbo pour plus de précisions.
Les autorités locales précisent que des coups de feu ont retenti pendant une dizaine de minutes dans la bourgade de Kabarole, un village du groupement de Basungura dans le secteur de Wenzuri. Il s'agissait d'un élément des forces armées commis à la garde de la piste de Kanyangoko, connu sous le nom de Bouswak, dans le village de Kabarole, qui tentait de tracasser des passants, majoritairement des femmes vendeuses. Raoul Kambale Danlike, chef du village Kabarole présent sur le lieu du tram, condamne cet acte insensé de ces soldats. Il signale des blessés enregistrés lors de cette bousculade et demande aux autorités militaires de sanctionner cet élément incontrôlé. Cet incident est le deuxième du genre depuis le début de cette année dans cette zone frontalière où les échanges commerciaux sont importants entre l'Ouganda et la RDC. Les autorités locales demandent aux services compétents de renforcer la sécurité afin d'éviter de nouveaux incidents qui pourraient perturber les activités socio-économiques dans cette zone frontalière. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
À Calémie, les conseillers communaux se disent préoccupés par l'insuffisance des policiers dans la commune de Calémie. Ils l'ont fait savoir ce samedi à Radio Okapi après une descente dans plusieurs quartiers de cette municipalité. Ils ont constaté que seuls deux policiers assurent la sécurité dans la commune de Calémie. Ainsi plaident-ils pour le renforcement des effectifs des policiers dans cette commune. Eric Erimirindi, porte-parole des conseillers communaux de Calémie, est au micro de Paul Amonanga.
Lors de notre dernière itinérance dans les quelques quartiers tels que le quartier Kianza et le quartier Lubundui dans la commune de Calémie, la population de presque tout le quartier dans cette commune vive la peur au ventre en ces jours où l'insécurité est grandissante dans la ville de Calémie. Et pour cause, la commune de Calémie ne compte que en ces jours deux policiers opérationnels alors qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils étaient au nombre de trois. À part ces deux policiers, le reste n'est que le personnel civil qu'on appelle en jargon policiers, les pères civils.
Le major du SIAD de cette commune dit également ne pas comprendre ces décalages d'entre ce que dit la loi et le réel. 180 est le nombre de policiers que prévoit le statut du personnel de carrière du 1er juin 2013 portant organisation et fonctionnement de la PNC. M'a laissé entendre ce major.
Nous en appelons à la responsabilité de son excellence, monsieur le gouverneur de Provence, de pouvoir donc aborder cette question avec l'inspecteur provincial de la police pour voir dans quelle mesure augmenter le nombre de policiers dans cette municipalité.
Le commissaire provincial de la police du Tanganyika reconnaît que la police fait face à un problème d'effectifs. Le général Aimé-Claude Wassongolois promet de descendre dans la commune de Calémie pour se rendre compte de la situation. Au sud Kivu, des voyageurs ont été cambriolés hier vendredi par des voleurs à main armée sur la route nationale numéro 3, axe Bunyakiri, dans le territoire de Calais. 43 motos et deux véhicules ont été fouillés de fond en comble et les occupants dépouillés de tous leurs biens en nature et en espèces. Le président de la société civile de Bunyakiri lance un SOS à l'endroit des autorités pour sécuriser cette partie de la route nationale numéro 3, transformée en bastion des coupeurs de route. Isaiah Benjamin déplore le fait que ces actes de braquage se commettent régulièrement sans aucune intervention des forces de sécurité. Il témoigne au micro de Jean Kassami.
Vendredi, le 10 janvier 2025, à 14h, dans le parc national de Kaouzbiega, un lié nommé Bilimambili, non loin de chez Wapadiri. Près du groupement d'Ebital, un pillage systématique de plus de 43 motos, un Land Cruiser, un bus, ont été dépouillés de tout par des hommes armés, non autrement identifiés. C'est ainsi que la société civile déplore ces pillages en répétition dans ces mêmes lieux et demande aux autorités de prendre leurs responsabilités pour garantir la sécurité aux usagers de la route nationale numéro 3 qui sont victimes au jour le jour sans riposte des autorités qui tiennent la sécurité à main.
Plusieurs autres cas de coupure de route ont été aussi rapportés sur le même axe le 18 décembre dernier ainsi que le 6 et le 8 janvier courant successivement à la bifurcation vers Kalonge, à Bugulumiza et deux fois de suite à Baramoto au cœur du parc national de Kaouzibiega. Le directeur de ce patrimoine mondial se dit aussi préoccupé par ces actes de banditisme à l'intérieur de ce parc.
Actualité internationale.
Moins d'un mois après le passage dévastateur du cyclone Chido sur Mayotte, l'archipel a de nouveau été placé ce samedi en alerte cyclonique orange. Madagascar aussi se prépare à l'arrivée du nouveau cyclone ce week-end. Classé vendredi soir comme tempête tropicale, Dikeledi devrait se transformer en cyclone dans les prochaines heures dans l'océan Indien. Il devrait frapper le nord de Madagascar et passer au large de Mayotte.
L'invité
du journal, c'est le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage du Maniema, Hassan Issoumou Ibn Tchouma, parle des efforts du gouvernement provincial dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à laquelle cette province fait face. Hassan Issoumou Ibn Tchouma s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le ministre Hassan Issoumou, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
L'enquête de l'Institut National de la Statistique révèle que la province du Maniema est en insécurité alimentaire. Le taux de prévalence est à 77%. Vous, gouvernement provincial, qu'est-ce que vous faites pour renverser cette tendance?
C'est une grande interpellation pour le gouvernement provincial du Maniema par le biais du ministère provincial de l'Agriculture. Donc nous, en tant que ministre sectoriel, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir sensibiliser sensibiliser la population. Quand je parle de la population, je vois les producteurs. Quand je vois les producteurs, il y a le ménage, il y a des associations, il y a des coopératives agricoles qui doivent de toutes les façons se mettre ensemble, travailler et produire pour que la population puisse avoir une alimentation équilibrée.
Travailler dans quel sens est la sensibilisation celle suffit pour combattre l'insécurité alimentaire dans la province?
Travailler tout comme sensibiliser la population ne suffit pas. Il suffit aussi d'accompagner le même ménage, les mêmes associations, les mêmes coopératives, les accompagner en intrant, en semences, dans des recyclages, dans la technique agricole, tout ça, ainsi de suite. C'est cela qui va faire en sorte que la production soit nécessairement intense au niveau de la province pour que la production soit également intense.
Est-ce que vous, gouvernement, vous appuyez les agriculteurs pour ainsi espérer à ces résultats que vous pensez?
L'objectif principal de mon secteur, d'abord, c'est d'accompagner les agriculteurs. Moi, je suis un ministre qui doit de toutes les façons être à côté des agriculteurs à tout moment, quand les besoins se font sentir. Nous avons les techniciens qui sont les agronomes, qui sont juste à côté des agriculteurs pour les accompagner dans la technique de production, technique agricole, tout ça, comment cultiver, comment semer, à quelle période de consommation. Ils sont tellement accompagnés.
Avant de parler de l'accompagnement, je pense que ces agriculteurs ont besoin aussi des semences pour bien cultiver.
Quand je parlais de l'accompagnement, je parlais de l'appui. C'est dans ces cadres-là. On appuie en semences, on appuie en intrants, on leur donne tous les instruments nécessaires pour la culture, on les appui et en conseil et en encadrement technique. Et c'est ça les soucis qui animent le gouvernement provincial pour cette fois-ci.
Parmi les causes de cette insécurité alimentaire, nous avons aussi la hausse du prix des denrées alimentaires.
Effectivement, c'est lié aussi au manque des infrastructures routières. Je sais très bien que le Maniema, c'est une province à vocation agricole. Le ménage, les associations cultivent, ils produisent. Mais l'acheminement de ces produits, de la production, du lieu de la production au lieu des consommateurs, pose problème parce qu'il n'y a pas de route. C'est pour cela que le gouverneur, dans sa vision, prend donc la réhabilitation des routes, des voies de dessert agricole, tout ça comme cheval de bataille. Donc, je pense d'ici février, nous allons nous mettre au travail pour que les routes soient en tout cas praticables, effectivement.
Mais monsieur le ministre, il y a certains agriculteurs qui disent qu'ils ne sont pas vraiment accompagnés. Dans quel sens? Il y a les semences qui arrivent hors saison. Vous pensez que ça, c'est une façon d'aider les agriculteurs et vous pensez que ça peut résoudre les problèmes d'insécurité dans nos provinces?
La population doit également reconnaître les difficultés auxquelles la province est habitée. Là, je parle des finances. Les semences sont disponibles dans tous les territoires de la province de Maniema. Mais les moyens font défaut. Déployer les équipes à travers tous ces territoires pour assurer la distribution de toutes ces semences, tout ça, bon, ça pose également un problème. C'est encore un frein. Nous sommes en train de nous battre. Nous lançons également un cri au niveau du gouvernement national, par le biais du ministère de l'Agriculture, de pouvoir nous appuyer, de pouvoir nous donner les moyens pour que cette opération, cette activité soit effective. Les gants ont été lancés par le gouvernement central pour que les semences soient disponibles afin de les distribuer, mais pas d'enveloppe. On va les distribuer comment? Mais cela ne peut pas faire en sorte que cela ne s'efface pas, mais nous allons faire le possible de nos moyens pour que les semences soient distribuées. Avec les petits moyens de bord, en tout cas, on va s'y mettre.
Avec cette façon de faire, monsieur le ministre, vous pensez que la population sera vraiment aidée?
Nous, en tant que gouvernement provincial, nous sommes là pour encourager la population de pouvoir faire les champs, de pouvoir produire, de cultiver diverses cultures pour quand même lutter contre l'insécurité alimentaire au niveau de la province. En attendant que le gouvernement central puisse nous appuyer financièrement. Sinon, nous ne pouvons pas croiser les bras. Ensemble avec la population, nous devons d'abord nous mettre au travail. Sinon, l'aide pourra venir après.
Monsieur le ministre Assani Soumoué, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi, mis en onde par Dieudonné Nyangasa et supervisé par Jude Mister Bilanda. Restez à l'écoute des programmes de Radio Okapi.